Chapitre 17. L'arrivée. Ce jour-là, tout était prêt pour recevoir dignement la nouvelle hôtesse du noble château de Crépon. Tout, depuis l'avenue festonnée de vertes guirlandes, les fossés bordés de vassaux et la grande pelouse émaillée de vingt costumes, jusqu'au perron du manoir où se tenaient les notables. Monsieur Hercule de la Pinsonnière avait fait atteler le matin à Bourges sa jument blanche. Il avait ordonné à son cocher d'épousseter sa voiture, équipage sacramentel qu'il avait acheté au baïf son prédécesseur et qui ne ressemblait pas mal à une carriole octogénaire. Dans l'intérieur roussi devait tenir à la fois monsieur de la Pinsonnière, Palamède, Mathilde et la présidente. Mais grâce aux énormes bouffantes de cette dernière, à sa queue prolixe et à l'échafaudage de sa coiffure, le commis des eaux et forêts s'était vu forcé de céder sa place à madame de Plante-Rose. Palamède montait un petit cheval berrichon sur lequel il se tenait de son mieux quand, à un ruisseau qui coupait la route, il s'éleva entre cette bête et lui une différence d'opinion assez notable pour que le malheureux se trouvât séparé de sa monture. Il se releva couvert de boue et dans un état si piteux que Mathilde ne put s'empêcher de rire. « Faites-vous ainsi, mon cousin, chaque fois qu'il vous prend envie de faire aux portières des dames le rôle d'écuyer Cavalcadour. Que dira, bon Dieu, madame la comtesse des Barres ? En vérité, vous avez là une bête bien mal apprise. » « Si c'était Pégase que j'eusse monté, ma cousine, répondit Palamède d'un ton dédaigneux, il ne se fût point conduit de telle sorte avec moi. Ces chevaux du Berry sont d'une impolitesse. » « Vous avez raison, et à votre place, je donnerai celui-ci à monter à Jean, notre cocher, pendant que vous sécheriez sur le siège. »«
C'est cela, pour qu'il nous verse, » reprit aigrement le baïf. « Ce garçon n'entend rien aux chevaux, il est si distrait. Montez plutôt cette côte à pied, Palamède. Nous ne sommes plus qu'à une faible distance de Crépon, le soleil vous séchera. »
« Pourvu que nous n'arrivions pas après la comtesse, » murmura la présidente, « votre jument blanche va si mal, monsieur de la Pinsonnière. »
« Elle a fait son temps, présidente, » répondit le baïf un peu piqué. « Elle a fait son temps et elle n'est pas la seule. Mais vous ne me parlez pas de ma toilette, qu'en dites-vous ? N'est-ce pas que j'ai bon air ?»
La présidente haussa les épaules.
« N'avez-vous point de honte, lui dit-elle, de vous croire encore à la mode ? Cette comtesse rira bien de vous, elle qui revient sans doute de Versailles. Croyez-moi, baïf, vous feriez bien mieux de ne pas mettre ainsi vos pieds sur ma queue et de ne pas saupoudrer ma robe de votre vilain tabac. Pouah ! Vous prisez comme un Suisse de paroisse. »
« Je prise beaucoup, c'est vrai, mais le tabac éclaircit les idées. » Et je voudrais que mes préparatifs allassent au mieux. Voici, par exemple, un gros nuage noir qui pourra bien couvrir ce soir notre feu d'artifice. C'est Palamède et moi qui devons diriger les boîtes. Ce sera du dernier beau.
Encore des folies, et pour une femme qui n'en vaut peut-être pas la peine.
Ma chère présidente, le feu est mon élément. Palamède dira ses vers. Ou plutôt, ce qui est de sa part une idée ingénieuse, il a chargé Mathilde de les dire à la comtesse. La présidente interrogea des yeux le rouleau de papier que tenait Mathilde. Il était lié d'une faveur rose.
« Ma chère enfant, lui demanda-t-elle, êtes-vous contente des vers de votre cousin ? Cela doit être, car c'est un garçon d'esprit. »
Mathilde ne répondait pas, elle venait de se pencher à la portière et regardait un cavalier qui semblait, ma foi, avoir à cheval une mine fort élégante. Il prenait le même chemin que leur voiture et se retournait seulement de temps à autre d'un air empressé vers l'attelage du baïf. Comme il le devançait depuis longtemps, il s'arrêta court à l'allée d'Orme formant l'avenue du château de Crépon. Près de cette avenue étaient les communs. Il mit pied à terre en cet endroit pour reboucler la sangle de son cheval. Mathilde reconnut Henri. La grâce de monsieur de Chaville était si naturelle qu'en le comparant à Palamède, tirant avec effort par la bride la monture qu'il avait désarçonnée,
La jeune fille éprouva un léger battement de cœur. Elle indiqua du doigt à la présidente ce cavalier, dont Madame de Plante-Rose ne put s'empêcher elle-même de vanter la bonne tournure, bien qu'il fût loin d'avoir une place dans sa faveur, car elle appuyait de tout son pouvoir les prétentions de Palamède. Au tournant de l'allée, M. de Chaville s'approcha de la voiture et salua ces dames avec sa politesse accoutumée. Un nuage de tristesse était alors empreint sur ses traits et l'on n'eût guère dit qu'il allait à une fête. Après avoir échangé quelques paroles avec Mathilde, il lui offrit la main car on dételait en cet endroit. Palamède donna de bon cœur son cheval au cocher du baïf d'épée et rejoignit la compagnie dans la grande cour. C'était un spectacle fort animé que celui de ces paysans berrichons avec leurs chapeaux ornés de fleurs, leurs bâtons noueux et leurs femmes endimanchées. On avait dressé dans la grande cour une vaste tente sous laquelle se pressait cette population active et bariolée, du milieu de laquelle ressortaient, comme autant de jeunes gazelles, les jeunes filles habillées de blanc que Béju était en train d'échelonner. Le baïf d'épée n'en voulait que 6, Bonjou en avait mis 12. Le digne intendant salua M. Hercule de la Pinsonnière et, s'approchant de Mathilde, qui devait marcher en tête de ce cortège charmant de belles demoiselles, il lui demanda si elle n'avait point peur. Mathilde rougit, elle était alors l'objet de tous les regards. Le choix de ses fleurs, de ses rubans, tout, jusqu'à l'ajustement de sa coiffure, en faisait une délicieuse miniature, un pastel que la tour eut peint un siècle plus tard. Comme ses compagnes, elle portait une robe de satin blanc et un bouquet. On eût dit d'une rosière. Palamède, qui venait de se rajuster de son mieux à la cuisine, n'osait guère s'en approcher. Cependant, il lui glissa à la hâte les mots suivants au premier coup de fusil qu'il entendit. « Mademoiselle, songez à bien prononcer mes vers. » Ces coups de fusil, tirés sur un signe de M. de la Pinsonnière, annonçaient en effet l'arrivée de la comtesse. Elle ne tarda pas, en effet, à apparaître, traînée dans un assez beau carrosse en ébène, au panneau duquel les curieux remarquèrent son chiffre et ses armes, avec la cordelière de rigueur pour marquer la veuve. Trois grands laquais effrontés se trouvaient perchés derrière la voiture. Mais un plus petit n'eut garde de se faire attendre quand elle descendit au bas du perron, afin de porter la queue à madame. C'était une veuve encore jeune et de grand air que la comtesse débarre. Elle avait les joues enluminées, l'œil brillant, l'aspect robuste. Quand elle ôta ses coiffes, chacun put la voir avec ses dentelles, ses mouches, ses rubans et des pierreries qui luisaient comme un soleil. Elle était venue seule dans son carrosse, malgré les mauvais chemins, et ne paraissait cependant pas fatiguée le moins du monde. Elle tenait à la main son masque et son éventail, elle portait aussi un drageoir. La détonation des fusils ne la fit pas sourciller, elle semblait aimer au contraire l'odeur de la poudre. Arrivée au bas du perron, elle y trouva le baïf d'épée qui la harangua et son intendant Bonjou, lequel lui remit les clés. À vrai dire, notre comtesse donna peu d'attention aux paroles de M. Hercule de la Pinsonnière, mais elle s'approcha en revanche, avec empressement, du groupe féminin qui l'entourait en lui présentant les fleurs. « Les jolies personnes » dit-elle, « au milieu de cette pluie de bouquets. Je ne sais trop, baïf, si vos fleurs de rhétorique valent celles-ci. Mais elles me sont bien chères, croyez-le. » « Oui, poursuivit-elle, le sang est fort beau dans le Berry, je le vois. »« Madame la comtesse, reprit le baïf, est peut-être bien fatiguée. Cependant, ma fille... »« Votre fille, baïf, mais où donc est-elle ? » interrompit la comtesse avec vivacité. « Serait-ce par hasard cette délicieuse personne ? Jamais dans mes voyages, je n'ai vu de teint plus frais. » « Ce sont des fraises pétries dans du fromage à la crème. » Cette comparaison, sentant quelque peu l'hôtel de Rambouillet, rendit le courage à Palamède, qui se dit en lui-même « Bravo, voilà une femme qui aime la poésie. » Et se penchant vers Mathilde « Mes vers, lui dit-il, mes vers, voici le moment. » Mathilde, toute tremblante, déploya le rouleau de Palamède et lut à la comtesse un compliment en vers dont nous ferons grâce au lecteur. Qu'il lui suffise de savoir que Palamède comparait Madame des Barres à la lune et les jeunes filles qui l'entouraient alors aux étoiles.
« Mais qui fera donc le soleil ?» demanda la comtesse. « Le poète, sans doute. Par ma foi, je veux le voir. »
Palamède parut, encore froissé des inclémences de sa chute et ayant imprimé ses talons en boue comme mascarille. La comtesse le regarda avec un sourire malicieux et lui frappa la joue légèrement de son éventail.
« Monsieur, lui dit-elle, vous faites de fort beaux vers. Ce serait un meurtre que tant de talents demeurassent enfouis dans la province.
« Nous en parlerons, bon jus, continua-t-elle en s'adressant à son intendant.
« Tirez en attendant de ma valise les œuvres d'un certain Molière, vous les donnerez à monsieur afin qu'il les étudie. »
Palamède se rengorgea, il était loin de soupçonner l'ironie de ce cadeau.
Mais, reprit la comtesse en revenant au baïf, « savez-vous, monsieur de la Pinsonnière, que vous avez là une charmante fille ?»«
Vous êtes bien bonne, madame la comtesse. »
Du tout, je lui trouve un de ses airs. Le roi, je vous jure, et la cour n'ont rien de mieux. Me permettez-vous de l'embrasser ?»«
Comment donc ? Mais ce m'est beaucoup d'honneur. »
La comtesse baisa le front de Mathilde, puis demanda au baïf quelle était la dame qu'elle apercevait.
« Madame la présidente de Plante-Rose, » répondit M. de la Pinsonnière en la présentant à la comtesse.
« Madame de Plante-Rose, » fit la comtesse avec étonnement. « Oh, c'est là un nom qui a fait du bruit. Ce nom-là me rappelle une histoire assez piquante. »«
Qu'est-ce à dire, madame la comtesse ?» s'écria la présidente avec effroi.
« Oh, rien, c'est un souvenir, une histoire dont je connais le héros. »
« Une histoire sur Madame de Plante-Rose ?» demanda à voix basse Mathilde à la comtesse en s'approchant d'elle d'un air de curiosité malicieuse.
« Oh, racontez-la, Madame la comtesse, je vous prie !»«
Vous y tenez beaucoup ? Serait-elle votre ennemie ?» reprit la comtesse en interrogeant Mathilde du regard.
« Oui, répondit-elle en échangeant un regard avec Chaville.
« Et plus tard, ajouta-t-elle, madame la comtesse, vous saurez pourquoi. »«
C'est bien, vous saurez donc, mesdames, qu'à Besançon,
oui, c'était à Besançon,
madame la comtesse, interrompit la présidente d'un air inquiet.
« Oh, je vous comprends, vous craignez peut-être que je raconte mal l'histoire. La sauriez-vous ? » ?»«
Moi, pas le moins du monde. » répondit la présidente, se cachant sous l'éventail.
« Eh bien, je continue, si toutefois ces dames le permettent. »
« Comment donc ? Mais nous vous supplions, madame la comtesse, » reprit le baïf d'un air galant. « Tout le monde vous écoute, et pour ma part, j'adore les histoires. »
« Eh bien donc, à Besançon, il y a 10 ans de cela, » commença la comtesse en jouant l'insouciance. Un charmant cavalier, célèbre à Paris par une infinité de bonnes fortunes, reçut d'une dame de la ville un billet, oh, mais un billet prodigieux. Il y était dit que sur son nom seul, sa réputation, son train, on désirait le voir et l'entretenir en secret. La dame signait enfin un rendez-vous dans les formes.
« Bravo, voilà qui commence bien, » dit le baïf.
Le rendez-vous devait avoir lieu chez elle. La dame avait sans doute quelques précautions à garder, car elle exigeait que le chevalier ne la vît que dans les ténèbres. Or, une bonne fortune à tâtons, gênait, il faut le croire, ce gentilhomme, peu habitué aux mœurs de province, quand un second billet lui fut remis par son valet. Celui-ci, il faut le dire, n'avait rien de galant et de parfumé. Il sentait les archers et le châtelet d'une lieue. Malheureux dans un duel où il avait laissé son ennemi sur la place, le gentilhomme fuyait les rigueurs des édits du roi, quand ce billet le prévint que cette nuit-là même, on allait l'arrêter et qu'il fallait qu'il partît. Comme il était homme d'ordre, il fit venir son valet, un certain Grippefer, pendu depuis, et lui recommanda d'aller trouver la dite dame. Le faquin n'y manqua pas, et il remplit si bien le rôle de son maître. Arrêtez, madame la comtesse, c'est une imposture, et si madame de Choisy qui vous l'a dite.
Ah, ne nommons pas les masques, madame la présidente, reprit la comtesse en souriant. Je n'ai compromis personne.
Qu'avez-vous donc, présidente? Mais vous voilà bien troublée, balbutia le baïf.
Moi, je n'ai rien, baïf, je n'ai rien, madame la comtesse. Ce que je dis n'est que pour réhabiliter l'honneur d'une femme.
Que vous ne devez pas connaître, j'en suis sûre, dit la comtesse avec une feinte bonhomie.
Mais je comprends à merveille un pareil élan.
Comment donc l'esprit de corps?
Mais la fin de l'histoire, madame la comtesse, la fin, demanda le bailli les mains jointes.
Pardonnez-moi, baïf, mais madame la présidente m'a fait comprendre que j'allais trop loin. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, si ce Grippefer fut heureux, il fut aussi pendu. C'était de toute justice. Mais j'oublie vraiment que la promenade nous réclame, ajouta la comtesse en prenant le bras du baïf.
C'est à moi, mesdames, de vous consulter sur les changements importants que je compte faire à ma nouvelle résidence. Si vous le permettez, je vous y retiens à souper, nous aurons de la musique. D'abord, j'aime le plaisir, les collations, les fêtes. Madame la présidente me fera bien l'honneur d'aller un jour en chasse avec moi.
Et vous-même, baïf?
Oh, j'espère bien que vous me tuerez mes faisans.
Il me faut votre concours pour que la seigneurie de Crépon devienne un petit Versailles.
À dater de ce jour, tout doit prendre ici l'aspect du bonheur. Ce qu'on me demandera, je l'accorderai.
Voyons, cher baïf, je tiens ici mon lit de justice.
En parlant ainsi, la comtesse s'était avancée sur le perron et se disposait à visiter son orangerie.
Madame la comtesse, s'écria le baïf d'un ton inspiré.
Oui, vous l'avez dit, ce gothique manoir va renaître de ses ruines. Vous voyez d'ici vos vassaux, leur jeu, leur enthousiasme. Et comment en serait-il autrement quand vous promettez de les rendre heureux? Quand moi-même, profitant d'un si beau jour.
Qu'avez-vous donc, baïf? Demanda la comtesse en voyant M. de la Pinsonnière prendre Mathilde par la main et la présenter d'un air solennel.
Madame la comtesse, j'ai une grâce à vous demander, reprit le baïf d'un ton ému.
Laquelle?
Que d'ici à 8 jours, vous daignez vous-même signer au contrat de cette chère enfant.
Que dites-vous?
Que dans 8 jours, mademoiselle Mathilde de la Pinsonnière épouse monsieur Anastase Palamède.
Mon Dieu! Murmura la jeune fille en se rapprochant avec crainte de la comtesse.
Rassurez-vous, chère petite, qu'avez-vous donc? Vous tremblez?
Madame la comtesse, murmura Mathilde d'une voix émue.
Oh, protégez-moi! « Aujourd'hui, avant de partir, il faut absolument que je vous parle. »
Mon cher baïf, répondit la comtesse en échangeant un coup d'œil à la dérobée avec Mathilde.
« Vous avez dit vrai, on n'a qu'à demander ici pour obtenir. Nous reparlerons de ce contrat. »